Bon, eh bien, bonsoir à tous. On va commencer peut-être par faire un petit tour de table de présentation de chacun des trois intervenants. Comme j'ai le micro, je vais en profiter pour commencer par moi-même. Donc, je suis Olivier Petit, je suis maître de conférence en économie à l'Université d'Artois. Je suis chercheur au CLERCE, au Centre Lillois d'études et recherches sociologiques et économiques. Et par ailleurs, je suis directeur de la revue Développement durable et territoire. Voilà, mes thématiques de recherche, je travaille pour l'essentiel sur la gestion de l'eau, essentiellement d'ailleurs sur la gestion des eaux souterraines. Et puis j'ai été amené à m'intéresser par la suite aux questions de biodiversité, de risque environnemental, à pas mal d'autres thématiques qui touchent au développement durable. Voilà.
Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Iratxe Calvo Mendieta, je suis économiste et je travaille à l'Université du Littoral à Dunkerque et je fais partie du laboratoire Territoire, Ville, Environnement et Société. Par ailleurs, je suis présidente de l'association Développement durable et territoire, en partenariat avec la revue du même nom. J'ai travaillé, donc mes domaines de recherche sont la gestion des ressources en eau, et puis aussi les mécanismes de gouvernance dans le domaine des risques industriels, puisque à Dunkerque, il y a du sujet pour des recherches sur le domaine. Voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Vélu, et donc, moi, je suis directeur de projet à la communauté d'agglomération de Saint-Omer pour la préfiguration d'un pôle de recherche et de développement en eau. Et donc, moi, ma formation est plus environnement et eau et agronomie.
Voilà, donc la table ronde va se décomposer en trois temps. On va avoir dans un premier temps, puisqu'il y a trois intervenants, une présentation un petit peu d'ordre général sur l'ensemble des problématiques qui touchent à la question de l'eau dans le monde, la question du bien commun, comment est-ce qu'on peut envisager d'un point de vue général, cette question de l'eau comme bien commun. Puis, on changera un peu d'échelle. On ira avec Iratxe sur la dimension nationale. Et puis, elle fera une présentation du cadre du terrain de l'eau d'Omarois. Et puis, on aura ce retour d'expérience, ce témoignage, pour poursuivre avec Frédéric Vélu. Voilà, donc chacun des intervenants est censé s'exprimer 20 minutes. Je compte sur mes camarades pour me signaler, parce que je suis un peu bavard. Si je dépasse un petit peu le temps qui m'est imparti. Voilà, donc en fait, cette question, l'eau douce, un bien commun, il faut tout d'abord commencer par dire que ce qui va nous intéresser ici dans le cadre de la soirée, ce n'est pas l'ensemble des ressources en eau, c'est l'eau douce, qui ne représente en fait qu'une infime partie de l'eau qui est disponible à la surface du globe. En fait, les volumes qu'on peut estimer, c'est ceux qui sont donnés dans les rapports mondiaux, notamment il y a un chercheur russe qui s'appelle Shlikomanov, qui régulièrement fait ce type d'estimation. Ces volumes sont absolument impossibles à se représenter à partir des chiffres. Enfin, toujours est-il que moi, j'ai beaucoup de difficultés quand on vous dit qu'il y a 1500 millions de kilomètres cubes d'eau à la surface du globe. C'est un chiffre qui est quand même assez effrayant. Cela dit, quand on raisonne en termes de stock, c'est là qu'on se rend compte que finalement, l'eau douce, ça ne représente qu'une infime partie de l'eau qui est présente sur Terre, seulement 2,5%. Et en réalité, sur ces 2,5%, la très très grande majorité, plus de 99% de l'eau douce disponible, n'est pas accessible, soit parce qu'elle est emprisonnée dans les glaces, au niveau des pôles, et ça signifie que la partie que l'homme et les écosystèmes peuvent directement mobiliser de cette eau douce est finalement très très réduite. Alors, une des caractéristiques essentielles, ce qui me permet aussi de faire la jonction avec la question du bien commun, c'est que une de ces caractéristiques à cette eau, c'est qu'elle est très inégalement répartie à la surface du globe. En fait, on considère qu'il y a 9 pays à la surface de la planète, je vous présenterai tout à l'heure une carte, qui se partagent à eux seuls plus de 60% de l'ensemble des réserves en eau douce. Alors, pour l'essentiel, parmi ces pays, on va retrouver la Russie, on va retrouver le Canada, on va retrouver l'Australie, tous ces grands pays. Et un certain nombre de pays à la surface du globe vont souffrir de pénuries dites ponctuelles, tandis qu'un certain nombre d'autres vont avoir des pénuries régulières. C'est précisément là que vont se situer un certain nombre de zones hydro-conflictuelles. On y reviendra dans un instant. Alors, l'illustration que j'ai choisie ici, c'est pour montrer que finalement, cette question de l'inégale répartition, elle engendre aussi des questionnements qui sont d'ordre économique et financier. Vous avez ici une représentation photographique d'une portion seulement de ce qu'on appelle le Central Arizona Project, qui est une dérivation du fleuve Colorado à partir du nord de l'Arizona jusqu'aux villes de Phoenix et de Tucson, qui sont aux États-Unis les deux villes, enfin deux des villes dont la croissance démographique est la plus importante. Et on voit que les Américains ont trouvé une solution finalement à cette inégale répartition, le Colorado ayant quand même un débit assez élevé. Mais ils ont tout simplement creusé un canal sur plusieurs centaines de kilomètres pour permettre à ces villes dans le désert d'être directement approvisionnées. Donc on pourra discuter dans quelques instants de ces projets pharaoniques au moment des questions tout à l'heure, si vous voulez. Alors, il existe beaucoup de cartes qui tentent de ramasser les données les plus importantes à propos de l'eau dans le monde. Donc les pays dont je vous parlais tout à l'heure, on voit, c'est ceux qui sont indiqués en bleu foncé, qui disposent de plus de 25 000 mètres cubes d'eau par habitant et par an. Donc ces pays, la Russie, le Canada, l'Australie, un certain nombre d'autres pays. En fait, ce genre de carte, elle a un certain nombre de difficultés à représenter l'inégale répartition, y compris à l'intérieur des pays. Parce que des pays comme l'Australie, vous le savez bien, il y a aussi des zones qui sont très très désertiques. Donc ça montre aussi les limitations de ce type de représentation. On a une petite quantité de pays qui disposent d'une quantité moyenne d'eau disponible entre 3 000 et 25 000 mètres cubes par habitant et par an. Et par contre, tous les pays qui se situent ici en grisé sont ceux qui disposent de moins de 3 000 mètres cubes. Alors je ne sais pas si par exemple en France, vous savez quelle est la quantité d'eau disponible moyenne par habitant. Donc on estime que c'est aux alentours de 4 000 mètres cubes. Alors ça ne signifie pas évidemment que c'est 4 000 mètres cubes consommés par chaque habitant. On estime en règle générale qu'un ménage moyen consomme environ 120 mètres cubes d'eau du robinet. C'est l'ensemble de l'eau, l'ensemble des flux annuels, l'ensemble des précipitations, moins l'évapotranspiration, rapporté au nombre d'habitants qui permet en fait de déterminer ces ratios. Donc ces ratios d'ailleurs de disponibilité par habitant et par an, ils ont commencé à émerger à partir des années 1970 grâce à une chercheuse suédoise qui s'appelle Malin Falkenmark et qui a mis au point ce qu'on appelle l'indice de Falkenmark, qui donne en fait un indice de stress hydrique et qui considère qu'en dessous de 1000 m3 d'eau disponible par habitant et par an, on est dans une situation de stress qui peut générer un certain nombre de problèmes. Alors l'intérêt de cette représentation cartographique, c'est que non seulement elle donne la question de la disponibilité, mais elle montre aussi où sont les lieux où on a des problèmes d'assainissement. Donc ce sont l'ensemble des points noirs. On voit que moins de 50% de la population des différents pays a accès... Donc les points noirs, c'est sur l'accès à l'eau potable. Donc ce n'est pas la question de l'assainissement, mais c'est plutôt dans l'hémisphère sud. L'autre élément qui est intéressant, c'est l'ensemble des points rouges où sont recensés ce qu'on appelle les zones hydro-conflictuelles. Et vous remarquerez qu'il y a une correspondance qui est assez frappante entre la disponibilité en eau et les conflits qui sont liés à l'eau. Alors, à ce sujet, je reviendrai sur ce sujet dans un instant, mais pour terminer sur cette carte, l'autre élément qui est vraiment important, c'est l'ensemble des cercles bleus, qui sont en fait les cercles qui montrent les pays où il y a une forte irrigation. Et en fait, il faut rappeler que l'agriculture, c'est le secteur économique qui consomme le plus d'eau. On estime à peu près à hauteur de 90% de l'eau qui est prélevée et consommée à la surface de la planète vient du secteur agricole. Donc en fait, si on attaque la question de la disponibilité de l'eau à travers, sous le prisme de l'agriculture, on peut déjà résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, je m'arrête quelques instants à propos de ces zones hydroconflictuelles. Alors, vous avez sans doute déjà vu dans ces derniers mois, ces dernières années, il y a énormément de magazines, de journaux qui aiment bien titrer « Le 21e siècle sera le siècle des guerres de l'eau ». Les travaux des chercheurs qui se sont penchés sur la question sont cependant difficile. C'est difficile de discerner le vrai du faux dans cette histoire. En réalité, quand on regarde les choses en face, certains chercheurs, notamment c'est le cas de chercheurs américains, ils soulignent que l'eau serait davantage finalement une source de coopération qu'une source de conflit. Il existe à travers le monde plusieurs dizaines de milliers de traités bilatéraux, multilatéraux entre les pays. Et en fait, les cas de conflits armés où l'eau serait la cause principale, en fait, sont très limités. Moi, à ma connaissance, j'en connais surtout un. C'est la guerre des Six Jours, en 1967. Mais hormis ce conflit, on a souvent tendance à considérer que l'eau constitue plutôt un facteur aggravant de conflits qui ont d'autres origines, plutôt qu'un élément strictement déclencheur. Donc, c'est pas du tout pour minimiser le fait qu'il y ait des tensions dans ce domaine, mais simplement pour sortir un peu de cette idée du mirage du 21e siècle qui serait ce siècle des conflits liés à l'eau. Alors, les sommets internationaux se sont succédés ces 20-30 dernières années, depuis la conférence de Mar del Plata en 1977, qui était la première conférence des Nations Unies qui traitait de l'eau et des enjeux de développement. On a depuis 1997, tous les 3 ans, des forums mondiaux de l'eau, qui à chaque fois sont des grands raouts géants, où chacun essaie de convaincre les autres que oui, ils vont faire des efforts pour résoudre les problèmes. Cela dit, quand on regarde les données statistiques qui sont disponibles, notamment sur la question de l'accès à l'eau et l'accès à l'assainissement, il y a quand même de bonnes raisons d'être perplexe, parce que les seuls résultats auxquels on parvient, certes, il y a un accroissement de la proportion de la population qui a accès à l'eau potable et accès à l'assainissement, mais en fait, la seule chose qu'on parvient à faire jusqu'à présent, c'est à résorber la poussée démographique. Si bien que les données que je vous donne, c'est des données qui datent de 2012, le dernier rapport des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, où on estime qu'il y a un petit peu moins d'un milliard d'habitants à la surface de la Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Alors avoir accès à l'eau potable, ça signifie avoir accès, être situé à moins de 50 mètres ou de 100 mètres d'un point d'eau, ça ne veut pas dire nécessairement à son domicile. Et puis surtout, 2,6 milliards de personnes qui sont privées de systèmes d'assainissement, c'est-à-dire, pour dire les choses clairement, qui n'ont pas de toilettes. Et ce chiffre, comme le précédent, ce sont des chiffres qui sont à peu près réguliers. Dans les rapports précédents, en 2009, en 2006, en 2003, il y a eu 4 rapports des Nations Unies sur le sujet, on était à 1,1 milliard et 2,5, à 1 milliard et 2,4, puis on est repassé à 2,6 milliards pour l'assainissement. Donc on voit que la situation, tout ce qu'elle permet, c'est de compenser. Il y a davantage de personnes qui ont accès à l'eau potable et à l'assainissement, mais c'est uniquement la compensation de la croissance démographique. Alors, il y a évidemment beaucoup de sujets d'inquiétude à propos des ressources en eau, notamment des enjeux sanitaires. On sait qu'il y a plusieurs milliers d'enfants chaque jour qui meurent d'avoir consommé une eau non salubre. Je crois que le chiffre, c'est jusqu'à 6000 enfants par jour. Généralement, pour des raisons qui sont directement liées à la qualité de cette eau et qui seraient facilement résolvables. L'enjeu de changement climatique ou des changements climatiques, on sait que les changements climatiques vont accroître à la fois la fréquence des événements climatiques extrêmes, mais aussi leur intensité, aussi bien au niveau de la sécheresse que des inondations dans le futur, ça va être un problème qui va se poser. Et puis, face à la poussée démographique, on estime, les estimations des Nations Unies, c'est autour de 9 milliards d'habitants à la surface du globe en 2050, on aura de gros soucis en ce qui concerne la question de l'alimentation. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à mobiliser l'eau pour la production alimentaire, et ça pose aussi la question d'ailleurs des surfaces agricoles. De plus en plus de superficies servent pour la production de carburant dit vert. Est-ce que finalement la priorité, ce n'est pas celle d'abord de nourrir la planète ? Alors j'ai trouvé cet après-midi cette image que je trouve très forte, hein, d'une campagne qui a été lancée il y a quelques années par l'UNICEF. Je crois qu'elle parle d'elle-même. C'est finalement cette idée. Alors je la vois moi sous l'angle du suicide. Je pense qu'en fait on aurait très bien pu faire tenir à quelqu'un ce pistolet à eau. Voilà, c'est... Donc ce qui est indiqué en dessous, hein, c'est que finalement il y a plus de personnes dans le monde qui meurent à cause d'une eau insalubre que de personnes qui meurent à cause de conflits armés. Alors si on en vient à la question du bien commun, il y a tout d'abord un certain nombre d'éléments qu'il faut rappeler et qui touchent à la gestion des ressources naturelles dans son ensemble. Donc il y a un texte qui est bien connu d'un biologiste américain qui s'appelle Garrett Hardin, qui est paru à la fin des années 1960, qui s'appelle « La tragédie des biens communs, tragédie des communaux », et qui exposait en fait une situation un peu, une sorte de fable, où il disait « Imaginez un champ qui est ouvert à tous, et chaque berger peut venir faire paître des moutons, son troupeau, sans qu'il y ait de restrictions quant à l'entrée dans ce champ ouvert ». Et ce qui se produit inévitablement, ce que dénonçait Hardin, hein, son texte s'appelle « The Tragedy of the Commons », la tragédie des communaux, c'est que chacun recherchant son intérêt individuel, à terme, il finit par ne plus y avoir d'herbe à brouter, et c'est la ruine de tous, à la fois des exploitants, mais aussi la mort des moutons. Donc cette fable, on peut la transposer sur bien des aspects. Évidemment, sur la question des ressources en eau, c'est assez pertinent de le voir sous cet angle-là. Simplement, Hardin s'était un petit peu trompé dans la qualification, notamment juridique, de ce qu'il qualifiait de biens communs ou de communaux. Ce qu'il était en train d'expliquer, en fait, c'était plutôt la tragédie des ressources en libre accès. Et donc, il proposait, pour sa part, deux solutions, soit l'intervention de l'État, qui, en réglementant, permettrait d'interdire aussi l'accès aux bergers, ou alors la mise en place de droits de propriété privée, qui, c'est un peu l'idée des enclosures, hein, des clôtures, qui permettrait de cette manière, à travers des mécanismes de transactions marchandes, de résoudre le problème. Et en fait, cet article, qui en fait ne reprend d'ailleurs que des idées qu'on trouvait déjà chez Aristote, hein, Hardin n'a rien inventé, cet article, il a donné lieu à une littérature académique très très foisonnante, et notamment à tout un tas de travaux sur les biens communs, qui ont été notamment popularisés par Elinor Ostrom, qui est une politiste américaine, qui est décédée l'année dernière, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009, et qui, avec bien d'autres chercheurs, en fait, a montré que Hardin s'était trompé. Il disait qu'il y avait deux solutions, soit la privatisation, soit la régulation publique. En fait, il y a une troisième voie qui est possible, c'est celle de l'autorégulation par les communautés d'usagers. En fait, les communautés d'usagers peuvent très bien eux-mêmes décider de règles qu'ils vont mettre en place pour gérer durablement leurs ressources communes. Et ça pose la question, finalement, du lien entre le bien commun et, évidemment, la gestion communautaire. Donc je vais assez vite là-dessus. Si on revient sur la question de l'eau par rapport à ça, dans ce débat sur marchandisation ou gestion publique, en fait, il y a eu tout un tas d'événements qui sont importants, qui ont conduit progressivement, à partir du début des années 90, les institutions internationales à recommander qu'on reconnaisse l'eau comme un bien économique. C'est le cas notamment d'une des conférences qu'a préparé la conférence de Rio en 92, hein, la conférence de Dublin, et notamment ce principe numéro 4 ici, qui stipule que l'eau utilisée à de multiples fins a une valeur économique et devrait donc être reconnue comme un bien économique. Et face à cette situation, on voit bien les solutions, marchandisation, gestion publique, gestion autonome par les communautés d'usagers. Il y a en filigrane, en fait, tout un débat sur lequel on a beaucoup travaillé avec IRATSE, qui est celui sur la question de la marchandisation versus la patrimonialisation. Et quand on observe bien des processus institutionnels, des positionnements, des politiques publiques mises en place à différentes échelles, notamment à l'échelle internationale, toute la politique qui touche à la gestion intégrée des ressources en eau, et puis à d'autres niveaux, ce qu'Iratse présentera dans un instant, notamment au niveau de l'échelle nationale, on se rend compte qu'on est dans une espèce de recherche de compromis entre ces deux pôles qui semblent a priori irréconciliables et qui en réalité, comme on le voit ici dans la déclaration, la directive cadre européenne sur l'eau, le considérant numéro 1 en fait, fonctionne un peu en interdépendance. Donc ce considérant numéro 1, c'est le préambule en fait de la directive cadre européenne sur l'eau qui a été adoptée en octobre 2000. Il montre bien cette ambiguïté. Il dit « l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres, mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel ». Si vous relisez la phrase, on ne vous dit pas que l'eau n'est pas un bien marchand. Ce n'est pas un bien marchand comme les autres, ce qui signifie qu'implicitement, on reconnaît que c'est un bien marchand et simultanément un patrimoine. J'ai peut-être déjà mangé presque mon temps. Je vais essayer de revenir sur la notion de bien commun pour vous expliquer aussi comment, en termes économiques, les choses sont souvent présentées. Alors la notion de bien commun, en fait, elle est, nous, on lui préfère avec Iratse la notion de patrimoine qui nous semble plus facile à circonscrire. Elle peut renvoyer à deux formes d'acception. Soit une dimension strictement économique basée sur les critères d'exclusion et de rivalité. Donc il y a un cadran qui est bien connu, qui est issu notamment c'est la poursuite des travaux de Paul Samuelson dans les années 1950, qui permet de différencier les biens privés, les biens publics, les biens de club et les biens communs ou les ressources communes. Et la caractéristique, c'est l'idée que la rivalité est importante pour ces biens communs, tandis que l'exclusion serait difficile. Quand on traite de cette notion de bien commun, on voit qu'il y a d'autres personnes qui vont lui donner un sens beaucoup plus moral, le bien versus le mal. C'est le principe d'un positionnement moral. Et il y a eu notamment un travail de François Flao qui est paru récemment, un petit ouvrage « Où est passé le bien commun ?» où il définit pour sa part cette notion en disant qu'il peut être défini comme l'ensemble de ce qui soutient la coexistence et par conséquent l'être même des personnes. Et on voit bien à travers cette définition qu'effectivement on pourrait faire entrer l'eau dans les termes de ce débat. Et donc ça sera ma dernière diapositive. Simplement, puisque c'était un peu en guise d'introduction, d'apéritif, l'eau comme bien commun, ce qui est intéressant quand on aborde ce domaine-là, c'est qu'on se rend compte à la fois qu'il y a pas mal de références à l'interface entre l'académique et le politique. Des gens comme Ricardo Petrella ou Mohamed Larbi Bouguera, c'est des gens qui à la fois enseignent à l'université et ont une influence sur un certain nombre de mouvements militants. Ils ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Dans le domaine justement militant associatif, alors j'en ai cité que deux, qui sont d'ailleurs très très fortement liés, l'Association pour un contrat mondial de l'eau et puis l'association que Daniel Mitterrand avait créée, France Liberté, qui se revendique de cette idée que l'eau doit être considérée comme un bien commun. Et puis on trouve aussi de plus en plus finalement de travaux universitaires qui ne vont pas forcément prendre l'eau d'ailleurs pour objet principal d'étude. Moi, j'ai participé à une journée en février dernier au Mans où il y a eu toute une discussion autour de cette question du bien commun. Et il y a un colloque qui est annoncé, organisé par le laboratoire de géographie ESO pour avril 2014 sur l'espace en partage où cette notion doit être strictement discutée. Dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, lors de l'avenue d'Elinor Ostrom en France il y a 2 ans, il y a eu aussi une tentative pour combiner cette notion du bien commun avec ce domaine. Et puis, et ça fait aussi en partie la transition avec ce qui sera dit par la suite, il y a des politiques publiques qui s'emparent de cette notion, et notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a ce qu'on appelle la TESR, la Transformation écologique et sociale de la région, qui est un programme assez ambitieux et qui dispose d'un référentiel d'action avec des opérations. Il vous en sera fait état de l'une d'entre elles tout à l'heure. Et en fait, l'ensemble du référentiel est fondé, basé autour de cette notion de bien commun. Voilà, donc simplement, je transmets en même temps la parole à Iratse pour vous dire que On a pu travailler, notamment tous les deux et avec d'autres, sur ces questions-là, dans différentes publications qui vous sont projetées ici.
Donc, transition faite, je passe du coup à une autre échelle, hein, de l'échelle internationale à l'échelle nationale. Donc, comment, en gros, comment on organise ici en France la gestion de l'eau, comment on appréhende cette ressource. Donc, je vous présente ici un peu le squelette qui structure un peu la façon dont la France et dont la législation française a pris en compte les ressources en eau. Alors l'eau actuellement en France, une des caractéristiques principales, c'est que sa gestion est décentralisée. Bien qu'il y ait des principes généraux qui sont définis bien sûr au niveau national, la gestion, la décision sur les politiques à mener et les actions à mener sur la ressource, elles sont décentralisées au niveau à une échelle qui est l'échelle des bassins versants. Donc, qui est d'ailleurs une spécificité dans les politiques publiques, puisque le périmètre choisi n'est pas un périmètre administratif traditionnel, mais un périmètre qui est défini par la nature, par la physique. Donc, les ressources en eau sont gérées au niveau des bassins versants. On en a 6 en France. Vous avez là, métropolitaine, France métropolitaine. 6 bassins versants au sein desquels est décidée et gérée et mise en place la politique de l'eau. Donc cette décentralisation a démarré à partir de la loi de 64, la loi sur l'eau de 64, qui crée aussi des agences de l'eau, qui sont des établissements publics, qui ont la mission de prélever des redevances auprès de l'ensemble des usagers pour ensuite utiliser ces redevances pour subventionner et pour payer des actions qui visent à protéger la ressource. Donc des agences de l'eau, dont le rôle est financier, et ensuite dans chaque bassin versant, des organismes décisionnaires, donc un comité de bassin pour chaque bassin versant, qui réunit l'ensemble des usagers du bassin versant et qui décide de la politique à mener au sein du bassin. Un comité de bassin donc, qui décide aussi la mise en place d'un outil de planification qui a été défini à partir de la loi 92, un outil de planification qui a comme objectif de planifier les politiques et les actions à mener dans le bassin de façon pluriannuelle. C'est ce qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE. Donc, outil de planification qui est mis en place au niveau des bassins versants. À une échelle plus petite, au sein de chaque grand bassin, on retrouve aussi des sous-bassins qui, un peu de façon parallèle, ont des commissions locales de l'eau qui décident aussi la mise en place d'un schéma, donc d'un outil de planification aussi à une échelle plus petite, qui s'appelle le SAGE, donc le schéma d'aménagement de gestion des eaux, et donc qui, de la même façon que le SDAGE pour l'échelle du bassin, définit les actions, les politiques à mener au niveau du sous-bassin. Donc, une gestion de l'eau, une politique de l'eau qui est décentralisée à une échelle du bassin et donc pas administrative, et une ressource en eau qui est qualifiée par la loi comme un patrimoine commun de la nation. Donc la loi de 92, dans son premier article, qualifie la ressource en eau comme l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Et je passe vite sur la directive cadre qui, de la même façon, présente la notion de patrimoine, même si elle le présente de façon ambivalente, hein, entre cette tension entre bien marchand ou patrimoine. Donc cette politique décentralisée est encore renforcée par les lois qui suivent, puisque actuellement, les actions qui sont mises dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux sont opposables au tiers, hein, c'est-à-dire qu'on peut porter plainte contre quelqu'un qui ne respectera pas les actions qui sont présentées, qui apparaissent dans le SAGE. Vous avez là les articles qui présentent dans la loi sur l'eau de 92 et dans la directive cadre cette notion de patrimoine commun qui est donc un affichage ou une qualification dans les grands textes de cette ressource en eau. Très vite sur la notion de patrimoine, parce que Olivier vient de vous dire qu'on la préfère à la notion de bien commun, juste pour expliquer un petit peu, mais si on prend la définition d'un chercheur dans Lannion, le patrimoine serait l'ensemble des éléments matériels et immatériels qui concourent à maintenir l'identité et l'autonomie de son titulaire dans le temps et dans l'espace par l'adaptation au milieu évolutif. Donc on voit bien que la notion de patrimoine commun s'adapte parfaitement à l'enjeu qui constitue la gestion des ressources en eau, puisque l'enjeu, c'est bien de gérer une ressource collective et de la gérer en commun. Donc parler de patrimoine permet de considérer les dimensions identitaires, les dimensions d'autonomie, la prise en compte d'échelles spatiales et temporelles, les mécanismes de décision collective, etc. Pour passer à la notion de bien commun, on voit quelques images pour vous montrer un peu le succès qu'est là ces derniers temps. Il y a pas mal de mouvements, des démarches qui revendiquent la notion de bien commun. Et je vais vous présenter la démarche de la TESR que Olivier vient de mentionner. Et surtout, je laisserai après la présenter un peu plus en détail à Frédéric. Très schématiquement, la démarche de transformation écologique et sociale régionale, en gros, c'est une initiative du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, dont l'objectif, c'est de mener la région vers un nouveau modèle de développement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent comme socle conceptuel la notion de bien commun. Donc la logique, la mécanique de la démarche, ça serait que des opérations de développement, des actions, des démarches concrètes sur les territoires contribueraient à la mise en évidence des biens communs, plusieurs biens communs de différents types, et ces biens communs seraient les ingrédients, en quelque sorte, d'un nouveau modèle de développement. Donc je passe très, très, très vite, mais juste pour présenter les opérations qui sont considérées comme le laboratoire de cette démarche. Donc, il y en a 9. Et en gros, le principe, c'est que ces opérations, ces démarches-là, sont des actions concrètes sur les différents territoires et permettent de tester, en gros, cette mécanique présentée de façon un peu théorique. Et donc, parmi ces opérations, on retrouve l'eau dans le Domarois, ce qui permet de parler de la ressource en eau dans le cadre de cette TESR, ou transformation écologique et sociale. Alors, du coup, je vous présente un peu ce territoire qui est très marqué par l'eau et un territoire qui est vraiment un laboratoire à terre ouverte, je ne sais pas si on dit ça, parce qu'on retrouve concentré tous les domaines, tout ce qui nous intéresse, tous les conflits d'usage potentiels qui existent, tous les enjeux en termes de biodiversité, en termes de transport, en termes d'économie. Voilà, donc le territoire, je suppose que vous connaissez, mais je le présente, je le localise rapidement, donc dans le bassin Artois-Picardie, c'est un sous-bassin du coup qui fait partie d'un parc naturel régional, le PNR des Caps et Marais de Pal. Donc dans la carte, je sais pas si on voit, ouais, dans la carte en bas à gauche, vous voyez bien le bassin. Non, ça fonctionne pas très bien. Le bassin de l'eau de Marois qui Je les laisse là. Le marais de Saint-Omer, un peu en bleu, qui présente bien, qui est le centre, un peu le centre. Pas un, ah, voilà. Alors, je n'ai jamais utilisé. Hein. Ah. Bon, ça va prendre plus de temps que la chose. Bref, c'est pas grave. Donc, on voit en bleu, dans la carte en bas à droite, le territoire du marais, donc 3700 hectares de marais, qui est vraiment un secteur spécifique de ce sous-bassin. Alors, si on fait un zoom sur le bassin en question, vous voyez là donc un 665 km² avec 72 communes, la plupart dans le Pas-de-Calais, quelques-unes dans le nord. Et complexe en termes hydrologiques, puisque vous avez le petit fleuve côtier des Monts Croisés, donc là, qui naît au sud-ouest, et donc près des collines de l'Artois, et qui chemine tranquillement jusqu'au marais de Saint-Omer, pour ensuite partir vers Gravelines de façon canalisée. Donc il y a le canal de grand gabarit qui traverse le territoire. Originellement, c'était pour transporter les matières premières du bassin minier vers le littoral. Et on a le secteur très spécifique, qui est le secteur du marais de Marois, qui concentre un peu plein d'enjeux sur la gestion de l'eau, puisque c'est le dernier marais cultivé de France. Donc on a essentiellement du maraîchage, avec une hydrologie très interconnectée et une nappe souterraine qui est souvent... qui donne le nom de château d'eau de la région Nord-Pas-de-Calais à ce secteur de l'eau de Marois, justement. Voilà. Donc, des conflits d'usage qu'on retrouve de fait de ces nombreux usages, justement, interconnectés. Donc, un amont plutôt rural, un aval plutôt urbanisé et industriel, la plupart de la population se concentre autour de Saint-Omer. Dans les usages, on a une agriculture céréalière, de l'élevage plutôt en amont, du maraissage et la cressiculture en aval, dans le marais. Un secteur industriel très présent, surtout aux portes du marais, avec quatre papeteries, la verrerie Arc International, qui est un des principaux employeurs de la région, la conserverie Bonduel et une brasserie de Saint-Omer. Et donc des prélèvements de la nappe qui sont très importants, 40 millions de mètres cubes par an, dont la plupart sont exportés à l'extérieur du bassin, ce qui n'est pas sans créer des conflits avec les voisins. Donc l'usage de navigation aussi dans le canal, une navigation qui a besoin d'un niveau d'eau relativement élevé pour que les bateaux puissent passer, mais un niveau d'eau élevé fait que parfois les maraîchers sont inondés, donc ça crée également des conflits. Et une zone particulièrement appréciée par le tourisme, tout en étant un marais cultivé. Donc, dans ce bassin, je vois que le temps passe, donc je vais aller vite. Une première initiative de réunion des usages de l'eau est réalisée en 88 suite à un accident très important de Bonduel, de la conserverie. Donc, un comité de concertation complètement informel qui se crée pour justement essayer de trouver des solutions aux pollutions dans le marais. Et en 92, lorsque la loi le permet, le territoire se lance très vite dans un SAGE. Et donc ici, vous avez les quatre enjeux principaux du SAGE. Satisfaire les besoins, assurer le bon état écologique, donc en lien avec les exigences de la directive cadre, assurer la protection protection des biens et des personnes soumises à des risques d'inondation, et notamment un enjeu principal sur le marais pour le préserver. Alors on va juste faire un petit point sur un des enjeux qui est un des enjeux principaux du sous-bassin, qui est les risques d'inondation. Bon, sur le marais en lui-même, en gros, très rapidement, c'est un territoire qui est très fortement touché par le risque d'inondation, de par la géologie, de par la présence humaine aux portes du marais, des activités agricoles qui font aussi qu'il y a des ruissellements qui créent des coulées d'eau, etc. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde de façon un peu plus globale, si on sort un peu du sous-bassin et on regarde les voisins, justement, on voit que le triangle, donc Calais... Calais-Dunkerque-Saint-Omer, je ne vais pas arriver, ce qui, vous voyez là, en bleu clair, c'est la plaine maritime flamande, donc un territoire qui a été gagné à la mer petit à petit, et qui se retrouvent donc sous le niveau des plus hautes mers. Vous voyez là un peu la différence entre les deux cartes. Et donc demande une gestion permanente de ce territoire pour éviter justement les invasions marines et pour éviter aussi les inondations sur le territoire. Donc un réseau qui est géré par des ouvrages qu'on pourrait dire pharaoniques, des ouvrages qui permettent justement d'éviter que la mer envahisse les terres et aussi qui permettent d'évacuer l'eau vers la mer. Donc un système qui est très, très fragile parce que en gros on ouvre les portes à marée basse et on ferme les portes à marée haute, mais lors de certaines circonstances, lorsqu'il y a des surcotes par exemple, on ne peut pas ouvrir les portes. Mais en même temps, s'il y a des surcotes plus une pluviométrie forte, du coup, ça crée des gros problèmes d'inondation dans les terres qui sont liées. Donc, et notamment, ça arrive jusqu'au marais de Marois et même en aval, en amont, dans le bassin de la Lys. Donc, une gestion qui demande un contrôle permanent et dernièrement, les organismes qui se chargent de cette gestion sont vraiment très inquiets parce que ce qui était à l'origine prévu pour gérer des crues décennales, on se rend compte qu'on fait fonctionner les pompes pratiquement en continu, parce qu'il y a des coûts financiers très, très importants, mais aussi qui montrent un peu la fragilité de ce territoire. Voilà, donc je donne la parole maintenant à Frédéric Valu qui pourra aller plus en détail sur ce territoire-là et donc sur les activités qui sont mises en place dans le cadre de l'opération de développement L'eau dans l'eau de Marois.
Merci. Donc, transition également. Je vais vous présenter une vidéo en fait qui présente bien l'opération L'eau dans l'eau de Marois. Et ensuite, je vous présenterai un peu plus en détail cette opération et le travail où on en est actuellement.
Alors, quand vous avez de l'eau, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, où on est beaucoup sur deux départements, il y a forcément un attrait lié à l'eau. On voit ici derrière les plans d'eau, c'est quand même éminemment sympathique. On a quand même la batellerie qui est entre 120 et 150 000 personnes qui viennent visiter par an. Donc, il y a aussi une activité forte liée à la... Alors, quand vous avez de l'eau, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, où on est beaucoup deux départements, il y a forcément un attrait lié à l'eau. On voit ici derrière les plans d'eau, c'est quand même éminemment sympathique. On a quand même la batellerie qui est entre 120 et 150 000 personnes qui viennent visiter par an. Donc, il y a aussi une activité forte liée à la ressource en eau, liée à la qualité des paysages, à la qualité des activités. Et c'est un tout, quoi. C'est-à-dire c'est bien le sens de la réserve de biosphère qui vise à assurer un développement durable du territoire et des hommes.
Le Nord-Pas-de-Calais recèle le plus grand marais de France. Un territoire d'exception, l'eau de Marois, appelé aussi château d'eau de la région. Le bassin trouve un équilibre fragile en garantissant la qualité de la ressource en eau, en approvisionnant les populations en eau potable et assure une quantité suffisante pour alimenter le marais.
On a proposé aux acteurs du territoire de croiser leur mode de faire et leurs connaissances de manière à ne plus travailler sur les problématiques de l'eau uniquement en termes de préservation de la qualité et de la quantité ou de la gestion de la pression sur la ressource, mais également comme un des vecteurs du développement territorial et d'un développement raisonné et durable.
Fragile, l'eau est une ressource vitale, porteuse d'enjeux comme l'excellence environnementale ou le développement économique et social de tout un territoire.
L'eau de Marois est de qualité parce que des efforts importants ont été faits il y a plus de 20 ans avec le monde industriel. Il vous suffit de regarder la qualité de nos rivières aujourd'hui là, où nous retrouvons du poisson de grande qualité, même le saumon à Blandec, alors au pied des papeteries qui ont fait la richesse de notre territoire, parce qu'aujourd'hui, les papetiers représentent encore plus de 2000 salariés, et donc c'est grâce aux efforts non seulement des industriels, mais aussi des collectivités, parce que la collectivité a beaucoup investi, et aujourd'hui, grâce au potentiel des uns et des autres, pu avoir cette richesse qui est reconnue aujourd'hui au niveau de la région.
Les efforts de chaque acteur ont permis de faire de l'eau de Marois un pôle d'excellence dans le domaine de l'eau et de ses usages.
Alors ce pôle, c'est une ambition économique qui s'adosse à l'activité pôle eau qualifiée par le conseil régional et portée par la communauté d'agglomération, qui va développer les entreprises, peu nombreuses aujourd'hui dans le traitement de l'eau sur le territoire, mais notre ambition est d'être excellent sur ce thème, en ayant des recherches pour pouvoir traiter mieux l'eau, traiter l'eau moins chère et consommer moins d'eau.
Une exploitation raisonnable et raisonnée donc, pour maintenir les activités humaines tout en protégeant le milieu naturel.
C'est sûr que le fait d'être accompagné par des chercheurs, surtout si ça se fait en concertation, c'est très important pour pouvoir dialoguer, que ce soit avec l'Agence de l'eau ou les différentes collectivités qui sont aujourd'hui gestionnaires des réserves d'eau.
Seul marais cultivé en France, il regroupe un tiers de la faune et la flore française. Ces 3700 hectares classés zone humide par la convention Ramsar, avec 170 km de rivière, confirme à ce territoire hors du commun la volonté de préserver cette richesse, un bien commun universel, l'eau.
Donc ce film en fait a été réalisé par le conseil régional pour présenter en fait l'année dernière et faire un point sur la transformation écologique et sociale. Alors, hop, voilà. Donc comme ce qui a été précédemment expliqué par rapport à la TESR, donc le conseil régional donc, lance une politique innovante et qui vise vraiment à créer des nouveaux modèles de développement via donc 9 opérations de développement. Et en fait, une des thèses de ce développement en fait, est liée à ce qui est représenté dans le cadre du développement durable. En fait, dans le cadre de ce développement durable, on a une économie responsable, une exemplarité environnementale et une cohésion sociale. Donc, ce qui fait qu'on a tout un tas de systèmes qui sont ou équitables, ou viables, ou vivables. Cependant, régulièrement, ce qui est mis en évidence, en fait, c'est que le pôle économique prend le pli sur les deux autres piliers. Et ce qui fait que on a en fait un déséquilibre du système. Et donc en fait, ce sont en général le système naturel et le système social qui en pâtissent. Donc en fait, une des thèses de la région, c'est que pour soutenir en fait le système naturel, par exemple, ce soutien passe par l'identification et la production de biens communs. Donc en fait, ça pourrait être par exemple une aire de qualité, la biodiversité dans les forêts ou une ressource préservée. Et en fait, on voit bien que le déficit de biens communs en fait, fragilise ces capitaux et qu'il est nécessaire d'identifier ces biens communs. Et donc actuellement, il y a un travail au niveau de la TESR pour l'implication de la population dans l'identification de ces biens communs et le travail au développement ou au maintien de ces biens communs. Donc pour ce qui est de la création du pôle en lien avec cette politique régionale, donc en fait le conseil régional avait déjà réalisé un travail en amont dans les années 2008 à 2012 où il avait rencontré l'ensemble des acteurs de l'eau au niveau de l'Eau Marois. Et donc suite à ces rencontres, il y a eu plusieurs axes qui ont émergé et donc le conseil régional sentait qu'il y avait vraiment un intérêt à développer quelque chose autour de l'eau. Et donc la communauté d'Aglo a tout de suite été intéressée pour mettre en place ce pôle de recherche et de développement. mais pour le compte du collectif, en fait. Ça, c'est une condition du Conseil régional. Donc, ce pôle a été créé en 2012 et il est en préfiguration pour 3 ans. C'est-à-dire qu'actuellement, le pôle est dans un des services de la communauté d'agglo. Il n'a pas de structure juridique actuellement. Donc, le temps d'émerger, de produire des fiches actions, de travailler sur des biens communs. Ensuite, on verra, après les 3 ans, comment on pourrait pallier à ce déficit juridique. Et donc, l'ambition du pôle, en fait, donc, c'est par l'excellence dans le domaine de l'eau et de ses usages, en faire un facteur de développement durable et d'attractivité du territoire. En fait, cet objectif a été partagé par l'ensemble des acteurs de l'eau de l'Audomarois suite à une réunion de travail qui a eu lieu en juin 2012, en fait. Donc, on a un focus Audomarois et on travaille également au niveau régional via un cluster d'entreprises qui s'appelle Aquapris. Et donc, ce cluster rassemble des usagers et des industriels dans le domaine de l'eau, essentiellement des industriels. Et donc, le but, en fait, du PRDE via Aquapris, c'est que le pôle de recherche, le territoire de l'Audomarois, est un peu un territoire d'expérimentation pour mettre en place ou pour tester certaines choses. Par rapport à la gouvernance, en fait, de ce pôle, donc actuellement, ce qui a été validé également courant juin 2012, donc c'est ce schéma de fonctionnement avec un comité décisionnel, un comité technique et financier, et ensuite des groupes de travail. Donc actuellement, on est en train de retravailler sur le fonctionnement au niveau du comité décisionnel. Donc, sachant que, par contre, les groupes de travail ont été constitués et ont produit des fiches actions que je vais vous présenter de suite. Et en parallèle, en fait, de cette structure pyramidale, on a un conseil scientifique. Donc, en fait, ce conseil scientifique était une des conditions de la mise en place du pôle de recherche et de développement, mais également une autre condition au dépôt de label Manen Biosphère qui a été réalisé et pour lequel on a obtenu ce label en mai de cette année. Alors, ce conseil scientifique, en fait, est constitué de 28 docteurs donc nationaux et régionaux, avec différentes thématiques. On a essayé d'avoir une palette très riche de thématiques. Le président, en fait, est M. Kargomar. Et ensuite, au niveau du rôle, donc le but de ce conseil, c'est d'émettre des avis sur des documents relatifs au projet concernés par des données produites, c'est-à-dire que le comité décisionnel, suite à un souci technique ou s'il souhaite valider certaines expérimentations, peut demander au conseil scientifique un avis et donc avoir une valeur scientifique. Et ce conseil scientifique propose également des axes de recherche sur... et au niveau des universités qui sont représentées dans ce conseil scientifique, mais également au niveau local. Et au niveau du fonctionnement, on est sur 2 à 3 jours sur le Audomarois, et ensuite on a des échanges informels via mail ou autre. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté les 5 groupes de travail qui font partie de la structure du pôle. Donc ces 5 groupes, on les a axés sur différentes thématiques. Donc le premier concerne l'acquisition de données locales. Le but de ce groupe de travail, c'est vraiment de donner des outils d'aide à la décision aux élus, aux acteurs du territoire. On a un second groupe de travail qui est sur l'eau et le milieu naturel. Là, on a une partie qui tend vers l'excellence environnementale. On a un volet économique, qui est le troisième groupe, où là, on est plus dans une démarche d'accompagnement des entreprises, mais également du tourisme et de la formation. Ensuite, on a un groupe de travail sur l'eau et l'agriculture, et un dernier qui est transversal aux 4 précédents, et on est plus dans un rôle de communication vis-à-vis du grand public, et surtout de capitaliser les avancées et les données du PRDE. Donc en fait, on a constitué ces groupes de travail en septembre 2012, et on les a réunis 3 à 4 fois, avec donc plusieurs sessions différentes. Donc la première, c'était une séance de brainstorming où on a demandé à l'ensemble des participants. Donc quand je dis participants, était représenté l'ensemble des acteurs de l'eau au niveau local, mais également au niveau national. On avait des personnes de l'agence de l'eau, de la région, de la Chambre d'agriculture, on a vraiment essayé de tabler sur une diversité de participants. Et donc, suite à cette première réunion, on s'est retrouvé avec on avait en moyenne 8 grands axes de travail par groupe. Et en fait, ces 8 grands axes, nous, on a voulu les prioriser pour ensuite rédiger des fiches actions derrière. Donc, on a eu une deuxième réunion où on a présenté en fait les 8 axes par groupe de travail. On a demandé aux participants de voter sur une priorisation court terme et moyen terme. C'est-à-dire qu'on leur a demandé, parmi les 8 actions qui étaient synthétisées, 2 actions à mettre en place sur le court terme et 2 actions sur le long terme. Donc court terme, nous, ce qu'on appelle court terme, c'est lancement en 2013-2014. Et le moyen terme, en 2014-2015. Sachant que les 4 actions qui n'avaient pas été priorisées seraient conservées pour la mise en place sur le long terme. Donc voilà, là on a eu une priorisation par vote. Et ensuite, on a réuni encore deux sessions, ces groupes de travail, pour rédiger des fiches actions par thématique, en fait, par rapport au vote qu'ils avaient réalisé. Donc je vous présente les 22 fiches actions des 5 groupes de travail. Donc on retrouve en fait les actions court terme, les actions moyen terme à chaque fois. Bon, je ne vais pas toutes les développer, je vais en présenter quelques-unes, celles sur lesquelles on a bien avancé. Et puis ensuite, on pourra passer aux échanges si vous le souhaitez. Donc, par contre, ce qui manque dans ce genre de démarche, c'est que comme on a décliné par groupe de travail, on a une vision assez ascendante. En fait, on travaille un peu par silo. Et donc nous, ce qu'on a voulu ajouter, c'est un peu de transversalité entre ces silos. Et donc nous sommes repartis de l'objectif du PRDE, donc qui est par l'excellence faire de l'eau un facteur de développement durable et d'attractivité du territoire. Et cette finalité, en fait, on l'a éclatée en deux objectifs stratégiques. Donc le premier sur la promotion des usages durables de la ressource. Et ensuite, le second, sur donner au territoire la capacité d'anticiper les changements sur la ressource en eau. Et ensuite, donc, ces objectifs stratégiques, on les a également divisés en sous-objectifs. Et par sous-objectifs, on retrouve une ou plusieurs fiches actions. Par exemple, sur le sous-objectif « Développer la connaissance », on a 4 fiches actions qui sont rattachées à ce sous-objectif. Donc de cette manière, on a un peu mis de la transversalité sur cette vision qui était assez verticale. Donc en termes d'exemple de fiches actions, pour ce qui est du premier groupe de travail, donc on a une première fiche action qui est l'analyse des données en vue d'établir un bilan hydraulique du Marais Audomarois. En fait, au cours des groupes de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de données qui étaient produites sur l'Audomarois, toutes produites par des entités et des structures différentes, mais personne ne les centralisait pour pouvoir faire parler ces données. Donc en fait, on a travaillé sur la rédaction d'une fiche action avec plusieurs descriptifs. Dans un premier temps, on a demandé à ce qu'il y ait un stage de collecte des données existantes pour déjà voir ce qu'il existe, identifier les structures qui les produisent, et essayer également de voir s'il y avait une corrélation possible entre ces données. Donc quand je dis données, ce sont des données quantitatives, qualitatives et biologiques sur l'eau. Donc ce travail a été réalisé à partir de mars jusqu'à fin septembre. Donc on a pris un stagiaire en Master 2 pour réaliser ce travail. Et donc actuellement, on est dans une phase où on souhaiterait approfondir cette base de données. Et donc on va lancer un cahier des charges pour demander à un bureau d'études de faire une analyse un peu plus complète et surtout de constituer une base de données qui est solide juridiquement, le stagiaire n'a pas encore eu le temps de travailler sur le volet juridique de la base de données et notamment sur les échanges entre partenaires des données. Et le but final en fait de ces données est de tendre vers une modélisation du marais avec donc la partie nappe phréatique et la partie marée. On sait qu'il y a des échanges, mais on aimerait les quantifier. Donc voilà un type de fiche action qui a été identifié et sur laquelle on a commencé à travailler. Je peux rapidement vous présenter un peu ce qui a été fait au cours de ce travail. Donc, si on part en fait de la base de données, donc vous remarquez qu'il y a une faute, il manque le S ici. Au niveau de la base de données, en fait, on est parti sur plusieurs thématiques. Il y a une thématique rejet, une thématique débit, quantité de l'eau, qualité de l'eau, pardon, et biologie. Et ensuite, chaque thématique a été éclatée en sous-thématiques. Donc un premier travail, enfin une première sortie de cette base de données, ce sont des cartes. Donc on retrouve en fait le marais Audomarois qui se situe dans cette zone. Et en fait cette carte représente des sous-bassins versants. Et chaque sous-bassin versant est équipé de manière à connaître son débit. Donc ça c'est un exemple de cartes que l'on peut faire avec cette base de données. Un autre exemple, là c'est un peu moins visuel, on est plus sur la partie mesure en eau souterraine, en eau de surface. Donc ce sont des points de prélèvement pour des analyses. Et en fait, ce qui avait également été demandé aux stagiaires, c'était d'identifier des zones pour lesquelles on manquait des données qui seraient nécessaires d'équiper. Et donc en fait, il a été identifié 5 zones, donc où on voit les flèches violettes, pour lesquelles on a très peu de données et là où c'est vraiment stratégique d'en acquérir. Je sais pas si j'ai encore le temps. 5 minutes. Je vais vous présenter en fait d'autres fiches actions qui ont été produites par les groupes de travail. Donc là, on est sur une fiche action qui est liée au milieu naturel, avec une évaluation des conséquences dues au changement climatique. Et en fait, ce qui est sorti de cette fiche action, c'est la mise en place d'un réseau de surveillance. Alors ça peut être un réseau de surveillance de particuliers ou de services de l'État. Et le but, en fait, est d'essayer de suivre si on a des proliférations, par exemple, de plantes invasives ou d'espèces animales invasives également, qui seraient liées au changement climatique. Pour ce qui est de la fiche économie, donc là on est sur une évaluation du risque de la vulnérabilité du territoire face au risque inondation, ce qui avait été présenté précédemment. Et donc on est en cours de réalisation en lien avec le SMAGEA, donc le syndicat mixte d'alimentation, le syndicat mixte de gestion de l'AA, qui gère en fait et qui a la compétence sur les risques inondation. On est sur une étude par rapport aux aménagements qui sont réalisés au niveau du PAPI. Donc le PAPI, c'est un plan de prévention contre les inondations. Et le but de cette étude est d'essayer de chiffrer l'avantage des aménagements par rapport aux dégâts produits par les inondations. Un autre exemple de fiche action sur le volet agricole, alors je vais passer à celui d'après, où en fait on est sur une problématique qui est liée aux différentes strates ou administratives ou aux différents dossiers auxquels sont confrontés les agriculteurs dans leur démarche. En fait, il y a un millefeuille aussi bien d'institutions que de dossiers différents. Et donc là, on va essayer de faire une synthèse de l'ensemble de ces strates et également, avec les agriculteurs, d'essayer de définir un projet de territoire en tenant compte de ces réglementations, mais également de voir la partie développement et quel genre d'activité on pourrait développer avec eux. Et je reviens sur la précédente. On est sur donc une partie qui s'intitule Modification des pratiques à l'échelle de la zone humide, où on va essayer d'obtenir en fait de la connaissance sur les études au niveau du sol. Par exemple, on a des sols qui sont tourbeux dans le marais, et on a une culture de chou-fleur depuis bien un ou deux siècles. Et en fait, on se demande comment les sols agronomiquement tiennent pour que ces sols produisent autant de rendement de chou-fleur annuellement. En fait. Donc on a vraiment des questions en termes d'agronomie sur ces types de sols. Ensuite, on a une partie sur les berges, où on aimerait mesurer l'impact des auxiliaires sur les cultures, de manière à réduire les traitements de produits phyto. Enfin, on a tout un tas d'idées qui sont sorties de ces groupes de travail. Et donc maintenant, on va essayer de lancer des études via le conseil scientifique sur ces parties. Ça, je l'ai présenté. Et voilà. Si vous avez des questions...
Je voulais savoir si vous travaillez en collaboration avec d'autres zones de marais en France ou à l'étranger d'ailleurs, et qu'on disait que c'était le seul marais cultivé, que je sache que le marais Poitevin est aussi un marais cultivé. Non ?
Non. Ah bon. Il est en fait cultivé en termes de maraîchage. Il est exploité par des agriculteurs, mais Saint-Omer est le seul marais où on cultive du légume en fait.
Ah, vous parlez uniquement de la culture
de maraîchage, oui.
Parce que j'avais fait une enquête dans les années 60, ça remonte sur l'aménagement du marais de l'Ouest, et justement c'était dans la perspective de transformer un peu ce qui restait de l'élevage et du portage des génisses dans les périodes d'été en zone agricole avec des systèmes de drainage adaptés justement à l'agriculture, y compris légumière, mais pas plutôt du céréal et j'avais une question sur le partage des ressources, la gestion commune des ressources en eau. C'est un exemple comme ça pour l'avoir traversé dans les oasis sahariennes. Et Nisala, je me rappelle dans les années 60 aussi avoir visité et avoir des explications de l'utilisation des eaux d'irrigation de la palmeraie que j'avais trouvé extraordinaire par rapport à la façon dont les collaborations des habitants se faisaient pour la gestion, y compris pour l'orientation de l'irrigation par zone cultivée dans les palmeraies. Parce qu'il y avait de la culture dans les palmeraies également, et c'était tout à fait bien organisé collectivement par les habitants et les cultivateurs.
Sur ce volet-là, je peux donner une réponse. Effectivement, hein, je pense que il y a plein de témoignages de gestion collective des ressources en eau. Moi, j'ai d'autres témoignages, par contre, qui montrent que entre l'eau d'irrigation et l'eau potable et l'assainissement, ça génère des problèmes, y compris dans les oasis. Il y a un certain nombre d'oasis pour lesquels vous savez qu'il n'y a pas forcément de système d'assainissement mis en place, qui finissent par rejeter tellement d'eau insalubre, ne mettant pas en place de système d'égout, qu'on a une contamination de la nappe, si bien que ça génère aussi des problèmes sur l'irrigation dans un second temps des différentes cultures. Donc en fait, il y a une espèce de perversité du système qui est liée au manque d'assainissement, si bien que même si on a des systèmes de partage pour l'eau d'irrigation qui peuvent être effectivement effectifs et qui prennent en compte la question du bien commun, l'effet retour du manque d'équipement en termes d'assainissement peut être parfois assez violent. Alors, Frédéric Jean nous a demandé de à la fois animer le débat tout en étant intervenant, donc on va vous demander de vous présenter, hein, c'est comme ça qu'on va procéder, Frédéric. J'ai parlé du monde, mais cela dit, en France...
J'aurais été curieuse de savoir en région de Pas-de-Calais quelle est la part que la région de Pas-de-Calais la part de la quantité d'eau que consomme le pétri en région. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de décider de proportion.
Non, toujours. Je pense que ce genre de données, vous les trouvez assez facilement auprès de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Mais plutôt que de vous dire des bêtises, je préfère pour ma part, vous orienter vers ce type de source de données. Après, ce que je peux quand même ajouter, c'est qu'il y a souvent une confusion qui est faite entre la quantité d'eau prélevée et la quantité d'eau consommée. En fait, c'est deux données qui me paraissent à peu près identiques, mais en fait, Soyez toujours vigilant quand vous avez des données statistiques sur les proportions entre eau prélevée et eau consommée. Et en fait, la quantité d'eau prélevée, c'est celle qu'on prélève effectivement. Ce qui va la différencier de la quantité d'eau consommée, c'est qu'on ne va considérer l'eau consommée que celle qui ne revient pas en fait dans les réseaux hydrologiques qui part finalement dans l'atmosphère via l'évapotranspiration. Et par ce biais-là, ça explique pour quelles raisons l'agriculture et le secteur d'eau à l'échelle internationale qui consomme le plus d'eau. Il est à la fois le premier préleveur, ça doit être aux alentours de 70%, mais par contre, il est le principal consommateur parce que l'essentiel de l'eau, effectivement, qui est prélevé par l'agriculture, bah, sert pour les cultures et donc ça se retrouve évapotranspiré et ça part. Bon, cela dit, le cycle de l'eau fait que, on sait bien, toute l'eau reste présente à la surface du globe, mais après, elle ne reste pas dans le secteur. Vous savez, moi j'habite au sud d'Arras. À propos de l'agriculture, j'ai vu des pratiques se développer depuis quelques années qui m'effraient. Notamment, je ne veux pas stigmatiser la profession agricole, ce n'est pas la question, donc c'est sur un cas précis que je m'arrêterai. Mais vous savez que la région Nord-Pas-de-Calais produit beaucoup de pommes de terre, on est réputé pour ça. Et les agriculteurs utilisent leur système d'irrigation pendant l'été, ce qui peut être compréhensible puisque les plantes se développent. Ce qui est plus curieux, c'est que là, en ce moment, enfin, c'était le cas surtout le mois dernier, ils continuent à arroser les champs, alors qu'en fait, les pommes de terre sont fanées. C'est uniquement pour le confort de l'extraction. Et donc, moi, ça me fait un peu froid dans le dos quand je vois les volumes qui sont, via les systèmes d'irrigation, qui sont exploités, uniquement pour éviter que les pommes de terre ne soient abîmées et qu'on puisse procéder à leur commercialisation. Donc effectivement, sinon après, la région est très industrielle, hein, ça je confirme, mais il ne faut pas oublier non plus que la région Nord-Pas-de-Calais, notamment toutes les plaines de l'Artois, il y a une production agricole de type intensif.
Bonjour, Grégory Pouy, donc l'Université de l'Artois. Pour répondre, en fait, on est à environ 60% de prélèvements naturels pour le milieu agricole et 20% pour l'industrie. Donc, c'est pour la région. Et je voudrais poser une question concernant en fait, le pôle d'excellence. Est-ce que vous avez fait appel en fait, à des laboratoires reconnus au niveau régional pour développer certaines thématiques? Et si oui, lesquelles, par exemple, voilà, sur les thématiques en milieu naturel?
Oui, alors en fait, on travaille avec l'Université du Littoral, ULCO, et Lille 1. Et en 2012, on a lancé une thèse sur la mesure des substances de perturbateurs endocriniens en rejet de stations d'épuration, donc sur 4 stations d'épuration autour de Saint-Omer. Donc on a un travail actuellement en cours, mais on souhaite associer les deux gros pôles d'université dans le pôle, en fait. En fait, sur la thématique de l'eau, on est sur l'île 1 et l'ULCO qui commence à développer cette thématique avec des analyseurs spécifiques sur les pesticides, sur les perturbateurs endocriniens.
Parce qu'il y a aussi des laboratoires au niveau de l'Université de l'Artois qui sont vraiment bien développés aussi dans ces thématiques. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir participer puisque nous avons aussi une université jusqu'à Béthune, donc c'est pas aussi loin que ça, Saint-Omer. Et on travaille en parallèle, donc c'est des unités mixtes de recherche CNRS qui sont aussi bien Lillois qu'Artois que UCO.
D'accord.
Ça peut être intéressant de pouvoir avoir des échanges aussi avec d'autres universités aussi.
Très bien, je me rapprocherai de vous.
J'ai encore posé aussi une question. J'imagine que dans la région de Saint-Omer, où cultivateurs, entreprises et des personnes qui ont souci de l'eau et sa propreté sont en. Il y a des conflits qui émergent et des règlements de conflits. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire dans quel type de conflits, comment ils sont gérés et quelle issue ils connaissent?
Alors, au niveau des conflits, pour l'instant, en fait, on compte sur l'appropriation des biens communs par la population pour essayer de résoudre certains conflits. Mais pour l'instant, le souci, en fait, au niveau du pôle, comme il est rattaché à une agglomération, il y a un peu de parti pris, forcément. Et ce qu'on aimerait, c'est que le pôle tende vers plus de neutralité et soit plus, en fait, un consensus de multi-acteurs qui aura vraiment sa légitimité et qui pourra prétendre à résoudre ou à éviter certains conflits d'usage.
Alors, je peux peut-être parler, du coup, puisque je ne travaille pas au pôle et que je connais un petit peu, pour avoir travaillé sur les conflits dans ce territoire. Peut-être un exemple, je montrais tout à l'heure quatre conflits principaux, j'ai passé très vite, mais un des conflits concerne, j'ai du mal à choisir entre deux parce que je les aime bien les deux, la navigation, l'usage, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais l'usage de navigation et l'usage des marchés dans le marais. Alors, bien sûr, c'est un conflit qui a évolué, hein, et depuis en gros 15 ans, ça a évolué positivement, selon mon avis. Mais en gros, c'est un conflit qui a comme origine les problèmes de niveau d'eau. Hein, ce que je disais, les bateaux ont besoin d'un niveau d'eau élevé pour pouvoir passer, et les maraîchers, dès que les niveaux montent de 3 mm, bon, j'exagère, mais 1 cm, ça peut faire la différence parce que c'est tellement plat que des gros espaces, enfin des espaces très étendus peuvent être inondés très vite. Donc le problème, c'est que le canal à grand gabarit est géré par Voies Navigables de France. Et on peut dire que l'acteur puissant dans cette affaire, c'était plutôt Voies Navigables de France. Hein, parce que le critère essentiel, c'était le critère du passage des bateaux qui était considéré comme prioritaire par rapport à l'usage maraîcher. Donc dans les discussions et dans les échanges, VNF considérait que la priorité, c'était le passage des bateaux, et donc tant pis en gros si les maraîchers étaient inondés. Alors après, il faut savoir que les maraîchers dans le marais ont un pouvoir politique très important, même si le nombre de maraîchers diminue au fur et à mesure, mais leur pouvoir est très important. Et donc, ils arrivaient jusqu'à interpeller le préfet pour intervenir dans ce conflit. Donc, petit à petit, il y a des protocoles de gestion des différents canaux du canal et puis des différents canaux du réseau global qui ont été mis en place. Et petit à petit aussi, la vision des Voies Navigables de France a un peu évolué pour dire, bon, on n'est pas forcément prioritaire dans toutes circonstances. Peut-être que dans certaines circonstances, on peut laisser. Donc il y a quand même un dialogue qui s'est petit à petit instauré. Mais pendant très longtemps, c'était vraiment très conflictuel. Pour
le second conflit.
Alors le second, c'est les industries qui sont du coup très présentes dans le marais, parce qu'elles sont vraiment très concentrées autour du marais. Et donc à la fin des années 80, les systèmes d'épuration étaient très limités, on peut dire ça comme ça. Et du coup, les pollutions rejetées dans le marais étaient très importantes. Alors les habitants du marais, de certaines zones du marais, me disait, on voyait le canal bleu, vert, rouge, de temps en temps, avec des pattes solides qui passaient de temps en temps. Donc c'était un problème. Alors souvent les pollutions de l'eau, on les voit pas, donc c'est pas quelque chose qui est très visible. Là, pour le coup, on le voyait bien, les habitants le voyaient bien. Et d'ailleurs, l'origine de la première expérience de concertation entre les usagers, c'était à cause d'un accident où Bonduelle a rejeté des quantités énormes de rejets. C'était une rupture d'une installation, je pense. Et du coup, ça a été un peu le déclencheur pour se mettre tous ensemble pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, à partir de là, il y a beaucoup de stations d'épuration qui ont été financées, notamment par l'Agence de l'eau, par les industriels, Et donc, ils se sont petit à petit équipés. Après, il y a le problème de l'agriculture en amont, qui rejette des pesticides, qui se retrouvent dans la rivière et donc dans le marais. C'est encore la pollution diffuse, très, très difficile de traiter.
Celle-là, elle est très belle. Au début de ton exposé, Lydie, tu montrais une atmosphère, la Terre, avec une quantité d'eau assez impressionnante, sur les océans. Mais on se dit naïvement, immédiatement, mais pourquoi est-ce qu'on ne désalinise pas? Et ça nous fait une quantité d'eau incroyable. Quel problème post-désalinisation qu'elle ne puisse pas fournir une quantité d'eau absolument suffisante?
Il y a à mon avis, mais peut-être que d'autres pourront compléter, hein. Il y a deux problèmes essentiels. C'est déjà la question du coût. Parce que il y a des usines de dessalement d'eau de mer en Espagne, en Israël, enfin dans plein de pays méditerranéens. Effectivement, ça fonctionne. Mais le coût du dessalement de l'eau de mer est quand même encore prohibitif. Donc ça, c'est la première limitation. Et puis la deuxième limitation, c'est que pour pouvoir procéder à ce dessalement, ça génère... Alors je ne suis pas... chimiste, mais je crois que ça génère des bromures qui sont très polluants. Et donc, finalement, c'est repousser un problème pour en générer un autre. Donc, voilà. Il ne suffit pas de filtrer avec un filtre à café, de conserver le sel et puis on a de l'eau non salée. C'est des systèmes de désalinisation qui utilisent en fait des procédés chimiques. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait de tous ces bromures?
Dû au relâchement de certains polluants, la même chose pour les PCB. Donc, on nous interdit de manger les poissons. Donc il y a des arrêtés préfectoraux. Par contre, on peut pomper l'eau pour alimenter notre maison et voilà, en fait, utiliser cette eau pour nous préparer à manger. Donc il faudra se poser d'autres questions. Concernant en fait tout ce qui est récupération d'eau, je pense qu'il y a des techniques super intéressantes qui sont développées actuellement. Puisqu'il y a les techniques de filets qui sont super écologiques. Donc on va mettre des filets pour capter les brumes ou les brouillards, puisqu'il y a aussi l'eau en format solide, liquide, gazeux, donc c'est 2% de l'eau non salée, ça représente 2% de l'eau, mais c'est aussi en liquide, en gaz et en glace. Donc voilà, il y a un gros pourcentage d'eau qui peut être utilisée, captée grâce à des techniques de filets qui sont installées par exemple au Pérou, au Chili. Donc c'est tout simple, c'est juste un filet, on va prendre la différence de température, comme dans les déserts, et l'humidité. On sait bien qu'il y a des espèces qui s'adaptent à l'aridité, excusez-moi. Et donc c'est le même principe que les coléoptères dans les déserts de Namibie qui vont se mettre au matin pour récupérer la rosée. Donc c'est le même principe pour récupérer la rosée. Voilà. On peut récupérer environ 100 litres, donc c'est 10 litres d'eau par jour, grâce à ces techniques-là, dans les déserts pour un mètre carré.
Bonjour, je suis Alice, doctorante à l'Université Lille 3, et j'aimerais, si vous pouviez, exposer l'historique du label du Marais Audomarois, le Made in Biosphère de l'UNESCO que vous avez obtenu cette année.
Alors en fait, il y a eu deux labels sur l'Audomarois. Il y a un premier label qui concerne les zones humides qui s'appelle Ramsar, le label Ramsar. Donc en fait, c'est une convention internationale qui donne un label pour des zones humides remarquables. Bon, par contre, par rapport à ces deux labels, il n'y a aucune contrainte supplémentaire. En fait, c'est juste un focus sur la région. Et le label Manian Biosphère, là, on est plus sur une dimension marais et usage du marais, avec les habitants du marais, avec les activités du marais. On est parti sur le même périmètre que le périmètre Ramsar, pour une zone qui est très importante. Et en fait, suite à cette labellisation, on estime qu'on va avoir une fréquentation de plus de 30% qu'il faudra gérer. Donc là, par contre, on risque d'avoir un conflit qui va naître, entre qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on laisse tout le monde aller dans le marais ou est-ce qu'on préserve une certaine partie du marais. Donc là, il y a un travail qui va être à réaliser sur cette partie de que fait-on des 30% de fréquentation supplémentaire. En fait. Mais en termes de... ces deux labels, ce sont juste des focus pour mettre l'eau de Marois sous loupe, en fait. Mais il n'y a pas de contraintes supplémentaires ou de financement que l'on pourrait obtenir.
Et est-ce qu'il s'insère dans le TESR ?
Non. En fait, c'est totalement différent. La TESR, c'est vraiment une politique du Conseil régional. Et le label, autant le label Manière Biosphère que le label Ramsar peuvent être réalisés sur des zones qui n'ont rien à voir avec le conseil régional en fait. L'ATESR donc souhaite développer donc des modèles sur 9 opérations de développement et en fait pour la région une opération sur l'eau ne pouvait se faire que sur l'eau d'Omarois parce qu'en fait l'eau d'Omarois est réputée étant le château d'eau de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est tout à fait légitime que ce soit sur le Domarois que cette opération de développement se développe, se mette en place. Mais ce sont deux démarches totalement séparées.
J'avais une autre question, mais plus de compréhension pour les petits. Comment vous êtes arrivé à opposer marchandisation et patrimonialisation ? Est-ce qu'un patrimoine ne peut pas avoir un aspect marchand ?
Alors, je crois que j'ai peut-être été un peu rapidement sur cette question. En fait, l'idée, c'est qu'il y a souvent, on stigmatise les choses en opposant marchandisation et patrimonialisation. Et une grande partie, précisément, de notre travail avec IRAC, avec un autre collègue qui s'appelle Franck Denis Vivien, ça consiste à considérer que ce sont deux dimensions qui coexistent et qui même parfois, dans certains cas, sont en interdépendance. Et donc effectivement, quand on tente d'étudier tout un tas de processus de patrimonialisation, on se rend compte qu'il y a une tentative de marchandisation qui se cache derrière. Je peux prendre un exemple qui n'est pas du tout dans le domaine de l'eau, qui est bien connu, hein, c'est celui de l'huile d'argan, où on sait très bien qu'il y a cette reconnaissance d'un mode de fabrication, de récolte des noix, d'une gestion communautaire qui est associée à cette récolte essentiellement par des coopératives de femmes au Maroc, et que se superpose à ça la promotion de cette idée que l'huile d'argan, avec toutes les vertus médicinales, qu'on peut lui prêter, va se retrouver à devenir quasiment un produit de luxe. Et donc on a en fait, se superposant, deux types de processus en fait, qui coexistent et qui s'alimentent l'un l'autre. C'est-à-dire que pour que la marchandisation puisse exister, elle va s'appuyer en grande partie sur le phénomène de patrimonialisation lui-même, parce que ça va être aussi un argument de vente. Et dans le domaine de l'eau, finalement, quand on regarde... l'essentiel des arguments qui vont pousser à la question de la marchandisation, c'est la reconnaissance de la rareté de l'eau. En fait, pour qu'un bien puisse être considéré en économie comme étant un bien économique, il faut reconnaître à la fois son utilité et sa rareté. Et l'ensemble des travaux qui ont démarré à partir des années 70, que je mentionnais tout à l'heure, sur la disponibilité de l'eau par habitant et par an, c'est une façon de pousser le débat à l'échelle internationale sur la question de la rareté, si bien que on peut soit d'un côté mobiliser cet argument pour dire l'eau est rare, il faut en faire un patrimoine ou un bien commun, le protéger, et puis simultanément des gens vont prendre exactement le même argument en disant l'eau est rare, donc ça veut dire qu'elle a une valeur économique et il faut pouvoir y associer un processus de marchandisation à l'aide de droits de propriété privée parce qu'elle est en danger. Et donc on voit que ces deux mouvements, ils sont presque, alors pas systématiquement, ça ne fonctionne pas toujours de cette manière-là, mais en tout cas, il faut les analyser conjointement pour bien comprendre la réalité.
Moi, sur la même thématique, sur le patrimoine, est-ce que la gestion locale de l'eau pour les communes en régie locale, est-ce qu'elle pourrait être assimilée en utilisation patrimoniale de l'eau, puisqu'on gère nous-mêmes notre eau, par rapport à tout ce qui est délégataire. Donc là, on devient une partie marketing. Je ne sais pas si c'est une question que tu me... Voilà. Est-ce qu'on peut faire une similitude à, par rapport à votre exposé en tant que bien commun, par rapport à des, aux régies locales, donc on gère notre propre patrimoine, ou est-ce qu'on vend notre patrimoine par délégation? Est-ce que ça peut fonctionner dans ce cas-là par rapport à votre économie? Parce que là, je...
Moi, je peux vous donner mon... En fait, c'est exactement l'argument qu'utilisent les ONG et tous les mouvements associatifs qui revendiquent la reconnaissance de l'eau comme droit universel, le patrimoine commun à l'humanité, etc. En fait, derrière ça, il y a un combat politique qui est pour le retour à la régie d'un certain nombre de municipalités qui avaient décidé une délégation de services publics. Ce qu'on voit, nous, derrière la notion de patrimoine et de patrimonialisation, il y a la dimension de gestion collective ou de gestion communautaire. Et la reconnaissance, finalement, d'une identité de cet ensemble, de ce collectif, par rapport à un objet spécifique. Donc, tout dépend comment la régie est organisée, d'une certaine manière, on pourrait dire, mais... Le statut juridique ne donne pas nécessairement une application directe par rapport à un processus qu'on pourrait qualifier de patrimonialisation. Il y a des régies directes qui fonctionnent avec très peu de démocratie à l'intérieur. Donc il ne faut pas non plus voir les choses de façon trop manichéenne. De la même manière, on a tendance à diaboliser systématiquement les délégations de services publics. Dans un certain nombre de cas, effectivement, ça a été des désastres. Il y a eu une manipulation sur les prix de l'eau qui ont été faits, notamment en Amérique latine. Il y a eu en Bolivie, à Cochabamba, des émeutes, des heurts très violents pour protester contre cette délégation de services publics de la part des grandes entreprises multinationales. Malgré tout, il y a certaines municipalités, à partir du moment où le contrat est quand même relativement transparent, ce qui n'arrive pas toujours, où il y a un débat entre le conseil municipal, qui est quand même aussi une composante de la collectivité, et le délégataire de services publics. Mais ça dépend des conditions intrinsèques de la manière dont les choses sont négociées. Donc on ne peut pas associer systématiquement, ça serait un discours militant, nous on se positionne en tant que scientifique par rapport à ça. Je ne sais pas si Ratsé sera en accord avec moi. On ne peut pas associer nécessairement régie publique, voilà, c'est une gestion patrimoniale, délégation de services publics, c'est une forme de marchandisation. Ça dépend du contexte.
Dans le prolongement sur les flux d'eau, j'ai entendu ou lu que la ville de Barcelone était alimentée par des canalisations sous-marines. Ça m'avait complètement halluciné. Est-ce que c'est vrai, qu'en est-il, et comment ces flux sont gérés, ce qui renvoie quand même un problème de pénurie et de marchandisation établie selon quelle forme de contrat? Entre qui et qui? Et ça prend des proportions effectivement assez hallucinantes, si c'est vrai. Et ça, je crois que c'est vrai. Mais qu'en est-il de cet exemple-là de Barcelone en particulier?
Alors, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas très bien. La seule chose que je sais sur Barcelone, c'est que c'est un groupe, c'est un groupe français. C'est un groupe français qui vient d'avoir... Donc la délégation de services publics pour les 35 prochaines années, pour l'équivalent de la communauté de communes ou communauté d'agglo de Barcelone. Donc c'est une délégation de services publics, mais c'est tout ce que je sais.
Bon, moi je ne suis pas espagnol comme les Iratse. Cela dit, elle est complètement de l'autre côté des Pyrénées. Elle est originaire de l'autre côté des Pyrénées. Cela dit, peut-être que ce dont vous parlez, il y a eu tout un tas d'articles de presse qui sont parus il y a une quinzaine d'années autour de la question de la dérivation du Rhône pour alimenter la ville de Barcelone. En fait, ce projet-là a été abandonné.
C'est faux.
Voilà. Donc en fait, il y a eu effectivement à un moment la SOR, la Société d'aménagement et d'urbanisme du Rhône, qui et une de ces grandes multinationales dans le domaine de l'eau, qui avait l'ambition de dériver les eaux du Rhône sur plusieurs centaines de kilomètres pour permettre l'alimentation de cette métropole en pleine expansion, qui est celle de Barcelone, et ça a été abandonné à ma connaissance. Hein.